de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Qui se souvient encore de Bernard Técèdre, philosophe, brillant normalien, mêlé au grand débat qui secouait l'école normale supérieure dans les années 50, Bernard Técèdre était aussi un éminent historien de l'art. Professeur à la Sorbonne, il y occupait une chaire d'esthétique et on lui doit, entre autres, d'avoir fondé l'école doctorale des arts, d'esthétique et des sciences de l'art à l'Université de Paris 1, école qu'il dirigea. Homme ouvert, brillant et passionné, il quitta l'université en 1992 pour se consacrer à ses travaux personnels. En 1967, pour l'émission L'heure de culture française, il intervint sur les relations entre les peintres et la critique, de Poussin à Baudelaire.
Peintres et critiques, de Poussin à Baudelaire. Les conférences académiques au siècle de Louis XIV par M. Bernard Técèdre, professeur d'histoire de l'art à la faculté des lettres de Nancy, avec la participation de Mlle Céline Fites. Cette troisième émission de la série a été enregistrée avec l'aimable concours de Radio-Canada.
Nous célébrons aujourd'hui un tricentenaire bien oublié, l'institution des conférences académiques. Les conférences académiques, à quoi bon les ressusciter? Ne serait-il plus décent de laisser de vieilles paroles à leur belle mort? L'académisme n'apparaît-il comme une dégénérescence du classicisme, comme ce moment où la conquête toute personnelle d'une discipline se codifie en préceptes sclérosés? Ainsi, l'esprit se rebelle, prêt à considérer de haut les doctrines surannées d'artistes trop officiels. Or, avant de trancher la question, peut-être aurait-il fallu d'abord la poser. Mais poser un problème, voilà le difficile. Ou, pour mieux dire, le difficile est de désigner son lieu. Car les questions d'art et de goût sont des chemins qui courent, comme les fleuves, mais elles ne courent pas à sens unique. Le vrai problème se situe à la rencontre entre plusieurs problèmes, aux origines souvent fort dissemblables. Le lieu du problème, c'est ce point où convergent les diverses lignes de force. Pour dessiner la première de ces lignes, nous dirons que les conférences académiques marquent une réaction de l'ordre classique contre les licences maniéristes ou baroques. Ces termes sont bien flous, bien trompeurs. Précisons un peu. À Paris, et cela dès avant le voyage de Poussin en 1640, certains peintres avaient réagi contre un art qui en appelait directement à la sensualité des yeux, à la sensibilité de l'âme, qui prétendait frapper le cœur sans passer par l'esprit, qui se gardait d'attirer le regard vers les détails du sujet avant de l'avoir subjugué sous l'effet d'ensemble. Ce style synthétique, il l'attribuait, lyrique au Titien, épique à Michel-Ange, quand il régnait dans les ateliers parisiens de Vouet, de Blanchard, de Vignon. Philosophes, plutôt que poètes, ils entendaient rendre raison des effets. Analystes, ils décomposaient l'action en personnages dont chacun incarna l'une des possibilités raisonnables de la passion, l'espace en plan échelonné en profondeur, et le temps de sorte que l'instant du tableau parut condenser un drame dont chaque moment successif eût laissé la trace visible. Savants, ils fondaient leur expression sur la psychophysiologie, leur récit sur les documents historiques, leur spectacle sur les lois optiques. Ces peintres, tournés déjà vers le passé, trouvaient leur interprète en Roland Fréard de Chambray, le pousciniste, qui publia en 1662 son « Idée de la perfection de la peinture ». Il écrit
« Le temps d'appel n'est plus. Les peintres d'aujourd'hui sont bien d'autres gens que ces vieux maîtres, qui ne se rendaient considérables en leur profession que par l'étude de la géométrie, de la perspective, de l'anatomie des corps, par l'observation continuelle des caractères qui expriment les passions et les mouvements de l'esprit, par la lecture des poètes et des historiens. Ces premiers-là se proposaient avant toute chose la belle gloire et l'immortalité de leur nom. Mais ceux d'aujourd'hui se sont fait une nouvelle maîtresse, coquette et badine, qui ne leur demande que du fard et des couleurs pour agréer à la première rencontre, sans se soucier si elle plaira longtemps. Voilà l'idole du temps présent, à qui le vulgaire de nos peintres sacrifie tout son travail. »
Cette première tendance était d'origine esthétique. La seconde concerne moins le goût des artistes que le statut de leur profession. Ut pictura poesis. Il s'agit, selon l'adage d'Horace, remis en honneur par la Renaissance italienne, de porter l'art de peindre au même niveau que l'art d'écrire, entendons au même niveau social. L'artiste ne veut plus passer pour un artisan roturier, mais pour un théoricien, noble à l'égal du poète. C'est bien pourquoi, en 1648, s'était fondée l'Académie royale. Ses membres prétendaient échapper au tracas des maîtres peintres, organisés sur le modèle des autres corporations, celles des maîtres forgerons ou des maîtres cordonniers.
Si dans la Grèce, l'Italie et chez toutes les autres nations, les arts ont été professés toujours librement et noblement, on les a vus, dans Paris, réduits en une captivité mécanique, soumis aux lois tyranniques de leurs propres valets et rangés dans la catégorie des métiers.
Une anecdote, mais sa portée va bien plus loin que l'anecdote, montrera cet état d'esprit. Le 1er décembre 1667, Nicolas Lamoignon de Baville plaidait en Parlement une cause célèbre. Girard Van Opstal, l'un des recteurs de l'Académie, réclamait paiement de 10 bas-reliefs aux héritiers d'un sieur N, qui s'y refusait, alléguant la prescription annuelle en usage dans les métiers. Les intérêts mis en jeu par l'avocat dépassaient de loin ceux de son client, et l'Académie le comprit si bien qu'elle fit imprimer la plaidoirie à ses frais pour la joindre à ses statuts. Il s'agissait de donner force juridique à une prétention héritée de la Renaissance. Les beaux-arts ne sont pas vil métier, mais profession libérale.
N'a-t-on pas sujet de dire que les peintres sont inspirés par quelque divinité, aussi bien que les poètes, et que pour donner la vie à des choses inanimées, il faut être, en quelque sorte, au-dessus de l'homme? N'est-ce pas une merveille de voir que la main d'un artisan imprime sur une matière insensible la ressemblance des visages et les mouvements des corps, et qu'en se jouant sur la toile avec un pinceau et des couleurs, elle imite par des lignes, des jours et des ombres tous les objets de la nature et la puissance même de leur premier auteur? Comment se pourrait-il donc faire, messieurs, qu'une profession qui tire sa naissance de Dieu même, que les philosophes, les empereurs et les rois ont exercée, qu'ils ont élevée par tant de prérogatives, et qu'enfin toutes les nations ont estimée dans tous les siècles, fût aujourd'hui méprisée et mise au plus bas rang des arts mécaniques par la nation du monde la plus polie?
Or, de telles prétentions n'allaient nullement de soi. En 1700 encore, Charles Perrault doit justifier son audace de donner place aux artistes auprès de capitaines et de prélats dans sa galerie des hommes illustres. Pour comprendre les conférences académiques, il faut prendre conscience de ce fait capital, que l'artiste veut à tout prix se distinguer de l'artisan. Et s'il revendique aussi haut le statut des professions libérales, c'est que cette dignité lui reste contestée par l'opinion publique. Il faut faire intervenir un troisième facteur encore. Louis XIV, pour sa politique de prestige, a besoin de surclasser par les arts les Italiens modernes, comme il a triomphé des Espagnols par les armes. Car les images montrent, donc elles démontrent. Comment l'esprit douterait-il de ce que les yeux voient ? Avec les tapisseries tissées au gobelin sur l'histoire héroïque du roi, les ambassadeurs portent dans toutes les cours d'Europe le renom d'un prince qui a sauvé la chrétienté en arrêtant les Turcs sur le Raab, contraint le Saint-Siège et l'Espagne à d'humiliantes excuses, scellé l'alliance avec les cantons suisses devant l'autel de Notre-Dame, a fermé ses frontières vers les Pays-Bas dans l'allégresse d'une entrée à Dunkerque et vers l'Empire par la prise de Dôle que balaie la bise d'hiver. Charles Perrault, le futur auteur des contes, mais pour l'heure le principal commis de Colbert aux bâtiments royaux, a dicté ce programme à Lebrun dans son poème de La peinture.
Les exploits de Louis, sans qu'en rien tu les changes, et tels que je les vois par le sort arrêté, fourniront plus encore d'étonnantes beautés. Ainsi donc, qu'à jamais ta main laborieuse poursuive de Louis l'histoire glorieuse, sans qu'un autre labeur, ni de moindre tableau, profane désormais tes illustres pinceaux. Songe que tu lui dois tes traits inimitables, qu'il y va de ta gloire, et qu'enfin, tes semblables appartiennent au prince, et lui sont réservés, ainsi que les trésors sur ses terres trouvés.
Pour Colbert, surintendant et ordonnateur général des bâtiments, arts, tapisseries et manufactures de France, qu'est la beauté, sinon le produit d'industries de luxe, qui, de surcroît, contribue à répandre la gloire du roi soleil. Colbert, l'économiste, s'inspire de deux principes, discipline et productivité. Sa politique économique donne la clé de ses initiatives artistiques. Productivité, d'abord recruter une main-d'œuvre qualifiée, puis l'organiser encore et la protéger par des privilèges. Enfin, former des élèves capables de la relayer. Tels sont les buts de l'Académie royale de peinture, sculpture et gravure. Discipline. Il faut désigner les chefs responsables en chaque domaine et coordonner leurs activités. D'où la réforme imposée par les soins de Colbert à l'Académie en 1663, ce parfait établissement dont les nouveaux statuts précisent la hiérarchie. Il faut enfin étayer sur une doctrine commune la cohésion du grand œuvre collectif, d'où l'institution des conférences, imposée de même en 1667 sur intervention personnelle du ministre. Désormais, les trois lignes de force que nous avions distinguées se rejoignent. L'Académie royale, composée d'artistes poètes, d'artistes philosophes, d'artistes historiens, se sépare de la corporation des maîtres peintres, composée d'artisans, de barbouilleurs, de mercenaires, en instituant des conférences mensuelles qui prouvent comme la théorie prévaut sur la pratique et comme la main ne doit jamais être que la servante docile de l'esprit. Cette académie réagit contre les licences ou les outrances des peintres libertins, séduits par les caprices du baroque et le phare du coloris, en revendiquant l'héritage de l'immortel Poussin, digne émule de Raphaël et des anciens. Elle garantit, selon le vœu du ministre, la discipline nécessaire aux grandes œuvres que la nation dédie à la splendeur du roi soleil, et en même temps pourvoit à la tâche pédagogique de former les nombreux élèves dont ce grand œuvre requiert le labeur, en élaborant une doctrine fondée en raison, étayée sur l'analyse des tableaux les plus accomplis. Ainsi, les conférences académiques, recueillies avec soin et publiées, constitueront à la fois une somme en théorie de l'art et un modèle en critique d'art. Colbert l'a demandé sans équivoque, déclarant
que si, dans l'académie, on proposait pour modèle les ouvrages des meilleurs maîtres et qu'on montrât en quoi consiste la perfection de l'art, cette manière d'enseigner serait d'une très grande utilité, puisque dans ce travail, de même que dans tous les autres, l'expérience découvre beaucoup de choses nécessaires à ceux qui étudient, lesquelles, profitant des remarques des plus savants, peuvent même s'exempter de plusieurs recherches qui emportent bien du temps.
Retracer une histoire des conférences serait déborder le présent propos. Il suffira de distinguer quelques grandes phases, de poser quelques jalons. Du 7 mai 1667 au 9 janvier 1672, c'est le temps de la libre confrontation entre tendances rivales, le temps où les idées, encore mal assurées de soi, précisent peu à peu leurs contours à travers cette confrontation même. Charles Lebrun, premier peintre du roi, avec sa méthode rigoureuse et son langage ferme, sur un ton souverain, commente des tableaux de Raphaël, Saint-Michel terrassant le dragon, ou de Poussin, les Israélites recueillant la manne dans le désert, le ravissement de Saint-Paul. Il présente, illustré de dessins, son enquête sur l'expression des passions et la physionomie. Mais son autorité n'impose aucune orthodoxie. Les esthétiques les plus diverses gardent toute faculté de s'exprimer. Les partisans du coloris prennent appui sur l'exemple du Titien, comme Louis Boulogne, ou du Véronèse, comme Jean Nocré, ou des baroques bolognais, comme Nicolas Loire. Sébastien Bourdon parvient mal à surmonter les tendances contradictoires de sa personnalité inquiète, instable, déchirée entre le grand goût de la statuaire antique et un amour spontané pour les apparences de la nature en leur infinie variété, en leur mouvance fugitive. L'austère Philippe de Champagne, janséniste et d'origine flamande, oppose aux mensonges des Italiens son scrupule de fidélité à la lettre des Écritures. Il ose ne point épargner Poussin, lui reprochant les chameaux omis de sa Rebecca ou la présence d'un fleuve Nil personnifié près de Moïse sauvé des eaux. Le 9 janvier 1672, Lebrun a rendu son verdict sur le débat qui opposait partisans du dessin et du coloris. Dès lors, les conférences perdent en liberté, souvent aussi en qualité. La grande affaire devient d'élaborer un corps de doctrine qui soit à la fois un code des valeurs et un manuel de pédagogie. Le résultat est publié en 1680 sous le titre « Les sentiments des plus habiles peintres de ce temps sur la pratique de la peinture, recueillis et mis en table de préceptes par Henri Testelin, professeur et secrétaire en l'Académie royale. » Après 1680, l'élan créateur paraît tari. La politique religieuse de Louis XIV, qui aboutit en 1685 à la désastreuse révocation de l'édit de Nantes, rend de moins en moins évitable la guerre de la France contre l'Europe presque entière. Les commandes royales, maintenues par Louvois à un très haut niveau, en accord avec l'immense budget de Versailles, s'effondrent brusquement en 1689, au lendemain de la Révolution anglaise. Les artistes, de plus en plus, se détournent de l'emphase officielle vers la clientèle privée. Portraits, paysages, scènes de mythologie galante. Les conférences ne consistent plus qu'en seconde ou troisième lecture de textes déjà vieillis, en commentaires des allégories dissimulées sous les tableaux de réception, en éloges d'académiciens défunts. La compagnie, réduite à contempler ainsi sa propre image dans un miroir déformant et flatteur, est entrée dans une longue sclérose, dont elle sortira seulement en 1699, avec ce véritable coup d'État qui livre le bastion de la tradition à ses pires ennemis, les partisans du coloris rubéniste. Mais que l'on se reporte aux années d'apogée, et l'on trouvera dans ses conférences une rigoureuse élaboration de concepts, une richesse en notations subtiles, une diversité d'attitudes qui surprendront. Ces peintres, orateurs improvisés, savent de quoi ils parlent, puisqu'ils parlent à partir de leur propre expérience. Et, en retour, ce qu'ils nous disent nous aide à comprendre cette expérience, à entrer plus avant dans leur œuvre de peintre. Ainsi, pour nous limiter à un exemple, Sébastien Bourdon traite en février 1669 de la lumière selon les différentes heures du jour. Pour lui, l'atmosphère lumineuse est aussi ambiance émotive. Il a découvert là un équivalent au « mode » de Poussin sous leur double fonction. Éviter la monotonie en imitant les apparences variées de la nature et donner au tableau l'unité d'expression capable d'affecter l'âme selon le sentiment qui lui convient. Voici la première de ces heures, l'aube.
L'aube convient à une scène de bataille ou de chasse. Par le bon effet que produit sur une multitude de figures qu'il faut démêler et auxquelles il est nécessaire d'assigner différents plans pour éviter trop de confusion, une lumière qui frise la surface de la terre et qui, à peine sortie de l'horizon, frappe doucement les corps. L'air continue d'être chargé de vapeurs et d'un brouillard qui laisse les corps dans une espèce d'indécision, à proportion qu'ils s'éloignent de l'œil. De notre côté, comme le soleil ne s'est pas encore montré, les ombres ne peuvent pas être fort sensibles. Tous les corps doivent participer de la fraîcheur de l'air et demeurer dans une espèce de demi-teinte. À l'égard du ciel, il ne doit pas être chargé de beaucoup de nuages, et s'il y en a, ils ne seront lumineux que sur les bords. Le fond, ou l'azur du ciel, doit aussi tirer un peu sur l'obscur, observant, dans les parties qui seront plus voisines de l'horizon, que cet azur prenne un ton plus clair, afin que le ciel fasse mieux la voûte, et parce que c'est de cet endroit que vient la lumière naissante. Elle y doit être rassemblée tout entière, et le ciel s'y colorer d'un incarnat vermeil, qui s'étendant parallèlement à l'horizon, formera, jusqu'à une certaine élévation, des bandes alternativement dorées et argentines qui diminueront de vivacité à proportion qu'elles s'éloigneront du point d'où part la lumière. Cette description n'est point à moi. C'est un tableau du Bassan qui me l'a fourni.
Est-il temps de dresser un bilan ? Les conférences académiques constituent, sur la théorie et la critique d'art au siècle de Louis XIV, un ensemble qui devrait déjà mériter quelque attention et quelque respect par sa seule masse. Plus de 200 manuscrits sur une période de 30 ans dans la seule bibliothèque de l'École des Beaux-Arts à Paris. Voilà une mine d'une prodigieuse richesse, encore insuffisamment prospectée. À cet ensemble, il faut reconnaître tout au moins trois mérites. La multiplicité des tendances rivales, s'affrontant dans le champ clos d'une académie que l'on tient si souvent et si mal à propos pour monolithique. Le sérieux de l'effort pour une élaboration progressive des concepts, des problèmes. Et, dans les meilleurs cas, la pénétration de l'analyse, la finesse des notations de détail. Voilà certes qui nous éloigne beaucoup de ce qu'on désigne communément par l'académisme. Ce n'est pas tout. À travers leurs propos sur tel point de doctrine ou sur tel tableau de maître, ce que les artistes révèlent, c'est leur personnalité même. Ils nous aident, à leur insu, à pénétrer dans le système de valeurs qui est sous-jacent à leur art. Ils nous ouvrent la meilleure des voies d'accès à leur œuvre. Or, ces artistes sont nombreux, divers. Ils comptent parmi les plus illustres de leur temps. À travers eux, c'est toute une période du goût français qui revit. Je ne dirais pas que leur texte en soit le reflet, car que nous servirait ce jeu de miroir? Quelle vanité et quelle pauvreté dans ce redoublement à l'infini d'une même image! Non, ils ne reflètent pas ce siècle, mais, sur le mode qui leur est propre, ils l'expriment. En nous aidant à comprendre une phase importante de la culture qui est nôtre, ils nous éclairent sur notre culture, donc sur nous-mêmes. Et c'est ainsi qu'il faudra reconnaître à ces vieilles conférences d'académie la vertu la moins attendue, une intense actualité.
Peintres et critiques, de Poussin à Baudelaire. Vous avez entendu les conférences académiques au siècle de Louis XIV par M. Bernard Técèdre, professeur d'histoire de l'art à la Faculté des Lettres de Nancy, avec la participation de Mlle Céline Fites. Cette troisième émission de la série a été enregistrée avec l'aimable concours de Radio-Canada.
Peintres et critiques, de Poussin à Baudelaire. Le débat du dessin et du coloris, par M. Bernard Técèdre, professeur d'histoire de l'art à la Faculté des Lettres de Nancy, avec la participation de Mlle Céline Fites. Cette quatrième émission de la série a été enregistrée avec l'aimable concours de Radio-Canada.
Le débat du dessin et du coloris occupe dans la théorie et la critique d'art du grand siècle une place centrale. À l'occasion de controverses passionnées, et souvent d'une étonnante verve satirique, il entraîne les parties en présence à élaborer toute une constellation de concepts dont les contours restaient jusque-là un peu flous. Lumière et ombre, reflet, clair-obscur, perspective aérienne, effet du tout ensemble, répartition symbolique des couleurs, leur union ou opposition, leur sympathie ou antipathie, leur harmonie presque musicale, etc. Les principes en jeu engagent deux esthétiques contraires, leur mise en œuvre, pour décrire ou évaluer les tableaux, a pour effet d'imprimer à la critique d'art une extrême diversité de tons. Voici par exemple comment Guillet de Saint-Georges, historiographe de l'Académie royale, présente en 1693 le passage du Rhin peint par Lebrun à la Galerie des Glaces.
Le roi paraît dans un char de guerre et tient la foudre à la main. Il est accompagné d'une Minerve, de la Gloire, et d'Hercule qui pousse le char au travers des vagues du Rhin, dont la divinité aquatique paraît saisie d'effroi. L'Espagne, effrayée, tient un masque pour signifier ses déguisements et sa secrète intelligence avec la Hollande, qui étant encore plus effrayée, est auprès d'un homme représentant un négociant. Celui-ci, pour marquer la confusion incroyable du trafic des Hollandais, est renversé parmi les ballots de marchandises et les livres de contes. On lit, sur les boucliers qui sont entre les mains de quatre figures de femmes, les noms des victoires de Vaissel, Orsoy, Burick et Rimbert.
Élucider les énigmes de l'allégorie, dévoiler les ressorts cachés de l'histoire, en dégager une leçon politique qui serve au prestige du roi conquérant, telles sont les intentions du critique. De coloris, il n'est pas un instant question. La description ne perdrait rien à commenter, non pas le tableau de Lebrun, mais une estampe en noir et blanc. C'est que Guillet, porte-parole de l'Académie et de la doctrine officielle, s'exprime en partisan résolu du dessin. Pour mesurer toute la distance qui le sépare d'un partisan du coloris, il n'est que de voir en quels termes Roger de Pile décrit, en 1676, un satyre de Rubens.
Le satyre est grand comme nature, et jusqu'à moitié des cuisses, il est planté au pied d'une roche. Cette figure est admirable par la force et le grand goût des couleurs. La joie éclate sur son visage par le brillant de ses petits yeux retirés et par les coins de sa bouche entr'ouverte qui semble prête à dire quelques bouffonneries. L'on remarque dans ce tableau l'adresse du peintre par la lumière judicieusement répandue sur la partie de l'estomac qui est plus éclairée et d'une chair plus blanche que son visage pour le détacher d'un panier de fruits qu'il soutient de ses deux mains qui n'est rempli que de poires et de raisins qui sont colorés d'une force surprenante.
Même contraste si nous comparons des textes poétiques ou disons plus modestement versifiés. Car les beaux esprits sont encourus en renfort aux deux camps. Voici l'éloge de Poussin par l'abbé Fédite.
C'est lui dont le pinceau sut joindre avec adresse et la correction et la délicatesse. L'entente des couleurs, le choix des vêtements, les airs, le paysage et les raisonnements, tout charme, tout surprend. Ses manières savantes offrent aux curieux des beautés pénétrantes. L'âme se trouve peinte en ses expressions. Le sage y reconnaît l'effort de ses passions. Le docte y voit l'histoire et ses traces fidèles. L'architecte, sur lui, peut former ses modèles. Tout concourt au sujet. Les groupes et les chants, unis par des accords amoureux et touchants, de l'action du temps nous marque la présence. Et partout, le savoir est joint à la prudence.
Le coloris n'a guère ici de place. Comment le sage, le docte ou l'architecte y trouveraient-ils leur provende? Mais, à cette leçon de Poussin, comparons celle qui fut tirée de Mignard. Cette fois, le poète n'est plus un obscur rimeur. Il compte parmi les génies du siècle. C'est Molière, car notre grand comique, ne l'oublions pas, était aussi un collectionneur de tableaux, un amateur d'art, au goût très fin. Sa « Gloire du Val-de-Grâce », publiée en 1669, est probablement le plus parfait des poèmes que la France classique ait voué à la peinture. La fresque de Mignard enseigne à Molière:
dans quel choix le plus beau on peut prendre le jour et le champ du tableau. Les gracieux repos que par des soins communs les bruns donnent au clair comme les clairs au brun. Avec quel agrément d'insensibles passages doivent ces opposés entrer en assemblage. Par quel coup de pinceau formant de la rondeur le peintre donne au plat le relief du sculpteur. Et comme avec un chant fuyant, vague et légère, la fierté de l'obscur sur la douceur du clair, triomphant de la toile, en tire avec puissance les figures que veut garder sa résistance.
Mignard est-il vraiment un coloriste? On peut en douter. En tout cas, ce que Molière loue en lui, c'est le clair-obscur plutôt que le coloris. Comparé pourtant avec l'éloge précédente de Poussin, la distance est grande. Elle grandit encore avec l'éloge de Rubens dans un poème anonyme de 1676, le Banquet des Curieux.
Il connut le secret des ombres, des lumières, inventa des couleurs plus vives et plus fières. Il frappe, il éblouit, il surprend, il impose, et nous fait croire vrai le faux qu'il nous expose. Ainsi, dans sa fureur, le poète animé suit d'un rapide vol le feu qui l'a charmé. Par son divin transport, méprise les limites et les sévères lois que l'art lui a prescrites, tire un nouvel éclat de son dérèglement et, dans ce qu'il produit, triomphe heureusement.
Entre dessin et coloris, la bataille n'aurait pas duré plus de 30 ans, n'aurait pas atteint les paroxysmes de violence ou de sarcasme qui furent siens, si l'enjeu n'avait été considérable. Mais quel enjeu ? La primauté du dessin engage la structure même de l'enseignement académique. Son école est une école du crayon, commune aux peintres et aux sculpteurs. Le maniement du pinceau ou du ciseau relève des ateliers privés. Tenir le coloris pour l'essentiel équivaudrait à rendre accessoires les leçons de professeurs royaux au prix des recettes d'obscurs tâcherons. Dérisoire, le monopole du droit à poser le modèle vivant. Ce serait, rien ne prétend moins à un code universel que les habitudes techniques jalousement préservées en chaque atelier, précipiter à sa ruine un art dont les fondements n'auraient rien de solide ni d'assuré. En second lieu, la primauté du dessin donne rang aux peintres parmi les intellectuels. Elle distingue les artistes des broyeurs de couleurs ou des barbouilleurs, de tous les artisans manuels, fussent-ils, et surtout s'ils sont, membres de la corporation des maîtres peintres. Ce serait faire injure aux artistes que d'oublier qu'ils sont poètes, historiens, philosophes, orateurs, que de limiter leur talent à représenter naïvement la nature, sans s'inquiéter de vraisemblance, de convenance, d'érudition. Le coloris doit satisfaire les yeux. S'il régnait seul, le noble art de peindre ne serait que le plus sale de tous les métiers. Poursuivons. L'école académique tente à former des peintres d'histoire. Et la peinture d'histoire tente à exalter les actions héroïques du roi, les vérités et mystères de la foi. C'est avoué qu'elle a deux débouchés, le trône et l'autel, qu'elle est donc liée à l'idéologie politique et religieuse. Félibien ou Perrault ne manquent jamais de souligner ce pouvoir qu'a la peinture d'éterniser les grands hommes, ni comme elle sert à la gloire des États. Par le haut niveau de culture qu'atteste sa beauté, plus immédiatement, par les sujets que représente aux yeux son éloquence muette. Si Mignard demande de copier au Vatican le Sacre de Léon III, c'est que ce tableau est une preuve. Il fait voir que les rois de France étaient souverains dans Rome. Si Lebrun reçoit ses lettres de noblesse, c'est que ces chefs-d'œuvre ne servent pas seulement d'ornement au palais des princes, mais encore de monuments à leur gloire, exprimant par un langage muet leur plus belle et plus héroïque action. Enfin, la primauté du dessin sauvegarde le privilège des habiles sur les curieux. Les adeptes de l'académie raillent le jargon des prétendus connaisseurs. Ce n'est que fraîcheur et vaguesse du coloris, franchise du pinceau, touche hardie, pâte bien nourrie, morbidesse des carnations. Que ne s'inquiète-t-il plutôt de la beauté, netteté, diversité, sublimité des pensées ? La réponse n'est pas malaisée. Tel qui sait applaudir à une jolie voix n'aurait pas compétence pour juger de la mélodie. Or, mieux vaut chanter juste et dessiner correct avec une voix, un coloris médiocre, que chanter faux et dessiner mal, avec une voix joliment timbrée, un charmant éclat de couleur. Face à tant d'intérêts conjugués, quel retour escomptent les coloristes ? Ils ne contestent pas que l'art de peindre s'adresse à l'âme, mais les yeux sont les portières de l'âme. Le plaisir des sens est immédiat, celui de l'esprit ne vient que par réflexion.
Le premier coup d'œil est à un tableau ce que la beauté est aux femmes. Quand cette qualité leur manque, on néglige d'examiner le reste.
Ce grand effet qui attire son spectateur, qui semble entrer en conversation avec lui, n'est autre que l'imitation parfaite de la nature. Par « parfaite », il faut entendre à la fois une apparence aussi vraie que la nature même et une harmonie de couleurs qui fasse du tableau un concert pour les yeux. L'une des interprétations conduite au trompe-l'œil, l'autre à une musique visuelle. Pourquoi n'entre-t-elle pas en conflit ? Parce que, suppose-t-on, le beau phare du peintre, enchéri sur le réel, exagère ses effets de clair-obscur et de coloris, à seule fin de lui être plus fidèle. Mais dès lors, la plus parfaite imitation de la nature devient une imitation plus parfaite que la nature.
Si Rubens ne s'est pas fort arrêté au goût de l'antique, ce n'est point par impuissance. C'est qu'il n'y trouvait pas assez la vérité du naturel dont il voulait être un parfait imitateur. S'étant donc proposé la nature comme objet de ses études, de ses réflexions, il a observé exactement et avec un jugement admirable le véritable caractère des choses. Et il a poussé cette connaissance si loin qu'avec une hardie, mais sage et savante exagération de ce caractère, il a rendu la peinture plus vivante et plus naturelle, pour ainsi dire, que la nature même.
Ainsi, la primauté du dessin ou du coloris n'est que l'aspect privilégié d'un débat qui engage deux esthétiques. L'affrontement des doctrines se traduit en conflit pour les débouchés, qui se résout en option de public. L'Académie répond aux commandes officielles, qui font appel à l'éloquence de l'image, fondée sur la grandeur du dessin, la claire expression des passions, la propagande par l'histoire ou par l'allégorie. Les rubénistes lui opposent le plaisir des yeux, fondé sur l'imitation sans emphase de la nature en son infinie variété, sur le grand effet d'un clair-obscur qui d'emblée captive le regard, sur l'harmonie musicale du coloris. À la clientèle royale, il préfère une élite d'amateurs, issus soit des couches nouvelles de la bourgeoisie, soit d'une aristocratie trop jalouse de ses prérogatives féodales pour adhérer au conformisme de la cour, celle des Orléans, des Richelieu, des Condé. Tant que le roi soleil est à son zénith, l'art d'État associe à son hégémonie le parti du dessin. Mais que la détresse financière tarisse les grandes entreprises de la couronne, au moment où la merveilleuse orfèvrerie de Versailles est fondue pour acheter des canons. Alors, les peintres vont se tourner vers les commandes privées, dont le goût coloriste, galant, léger, s'écarte toujours davantage d'une cour toujours plus puritaine, où règne une vieille veuve dévote, là maintenant. Entre dessin et coloris, l'affrontement s'est annoncé dès 1667 avec le premier grand cycle des conférences académiques publié par Félibien et les premiers livres de Roger de Pile. Les escarmouches ont été multiples quand soudain le conflit éclate au grand jour de juin 1671 à janvier 1672. C'est un drame en trois actes. Acte premier. Philippe de Champagne commente un tableau du Titien. On ne saurait prétendre que l'éloge fût insincère, ni réticent. L'orateur loue un virtuose du coloris et le loue en virtuose. Mais ce janséniste ne peut se satisfaire de cet éclat extérieur qui touche le cœur sans élever l'esprit. Le coloris, ce séducteur, est une tentation à surmonter.
Ce n'est pas que cette partie de l'art ne soit très nécessaire, mais l'étudier plus que le principal et en faire sa seule étude, c'est se tromper soi-même. C'est choisir un beau corps, se laisser éblouir de son éclat et ne pas se mettre assez en peine de ce qui doit animer cette belle apparence qui ne peut subsister seule, quelque beauté qu'elle puisse avoir. Parce que la beauté d'un corps ne fait rien à sa vie, si l'âme et l'esprit ne l'animent.
Acte second. Gabriel Blanchard, fils de Jacques Blanchard, le grand coloriste du règne de Louis XIII, s'indigne de cette critique contre l'un des plus beaux tableaux du Titien. Le coloris, affirme-t-il, n'est pas moins nécessaire que le dessin. Il faut aller plus loin. Si, dans un art, il est une partie qui contribue davantage à son essence. Cette partie-là est la plus nécessaire. Or, comment se définit la peinture? C'est un art qui, par le moyen de la forme et des couleurs, imite sur une superficie plate tous les objets qui tombent sous le sens de la vue. Le but de la peinture n'est donc pas seulement d'imiter la nature, puisque tous les arts le font, ni seulement de tromper la vue, car il y a beaucoup d'occasions où la sculpture le pourrait faire. Mais il faut ajouter que cela se fait par le coloris, qui constitue ainsi la différence spécifique de la peinture.
Il n'y a que cette seule différence qui rend la fin de la peinture particulière et qui la distingue d'avec celle des autres arts. Et un peintre n'est peintre que parce qu'il emploie des couleurs capables de séduire les yeux et d'imiter la nature.
Acte 3. Lebrun rend son verdict en faveur du dessin. Il est faux que le coloris soit essentiel, puisqu'il relève de la matière, non de la forme.
Le dessin imite toutes les choses réelles, au lieu que la couleur ne représente que ce qui est accidentel, car elle est produite par la lumière et change avec elle. La couleur ne peut produire aucune teinte, ni coloris que ce ne soit par la matière même qui porte la teinte, car l'on ne saurait faire du vert avec une couleur rouge, ni du bleu avec du jaune. C'est pourquoi on peut dire que la couleur dépend tout à fait de la matière, et par conséquent, qu'elle est moins noble que le dessin, qui ne relève que de l'esprit.
Après ce verdict du premier peintre, l'affaire semblait classée. Elle le fut, officiellement du moins, à l'Académie. Mais au dehors, elle allait connaître un double rebondissement. En octobre 1672, Roger de Pile publie un opuscule de 80 pages, Le Dialogue sur le coloris, qui en appelle de la sentence de Lebrun auprès des amateurs, qui porte ainsi la controverse pour la première fois sur un terrain tout nouveau, celui du grand public. La même année, le duc de Richelieu a joué à la paume, contre le roi, sa magnifique collection, qui comportait 15 poussins, et il l'a perdu. Puisqu'un tel ensemble ne se pouvait plus reconstituer. Puisque les Flamands, ruinés ou effrayés par l'invasion française, s'efforçaient de négocier leur tableau de maître à vil prix, le duc remplaça ses Poussins par Rubens. Et ce fut l'occasion, pour les partisans de chacun des deux peintres, d'un affrontement qui venait recouper le débat du dessin et du coloris. Toute une floraison de pamphlets, libelles, poèmes, textes théoriques. N'y manquèrent pas les satires les plus acerbes, comme le Banquet des curieux, la Réponse au Banquet des curieux, et l'arbitrage trop visiblement partial qu'est le Songe d'Ariste. Ni les fulminations d'académiciens contre la cabale, ni même les ouvrages de haute tenue doctrinale ou critique, comme La vie de Poussin dans les entretiens de Félibien, comme La vie de Rubens, la description du cabinet de Monseigneur le duc de Richelieu, les conversations sur la connaissance de la peinture, tous trois par Roger de Pile. Puis la bataille languit, faute de combattants. L'académie poussiniste s'est enfoncée dans sa longue torpeur. Roger de Pile cesse de publier. Les peintres, en se détournant de plus en plus de l'art officiel pour satisfaire aux commandes privées, se convertissent presque insensiblement au goût rubéniste, d'un rubénisme, il est vrai, souvent un peu abâtardi. En 1699, lorsque le triumvirat, composé de Jules Hardouin Mansart, l'architecte, Charles de Lafosse, le peintre, et Roger de Pile, le critique, prend en main les destinées de l'Académie, la victoire des coloristes est totale. Mais ce qui, pour la Compagnie, a pris presque l'allure d'un coup d'État, ne fait déjà plus, à l'égard du goût public, que consacrer le fait accompli. Un nouvel équilibre se prépare, qui tentera d'accorder au grand goût des peintres d'histoire la suprématie désormais acquise du coloris. Roger de Pile, lui encore, en propose la théorie, qui doit surmonter un débat périmé. Il faut, dit-il, distinguer deux vrais.
Le vrai idéal, ou choix de diverses perfections qui ne se trouvent jamais dans un seul modèle, mais qui se tirent de plusieurs, et ordinairement de l'antique. Le vrai naturel, ou imitation simple et fidèle des objets tels qu'ils se présentent d'abord à nos yeux, en sorte que les carnations paraissent de véritables chairs et les draperies de véritables étoffes, que toute chose conserve le caractère de sa nature, que par l'intelligence du clair-obscur et de l'union des couleurs, les objets qui sont peints paraissent de relief et le tout ensemble harmonieux.
Le portraitiste, le paysagiste, se satisfont du vrai naturel. Les académiciens d'autrefois se satisfaisaient du vrai idéal. Mais leur synthèse sera le dernier achèvement de l'art et la parfaite imitation de la nature. Tout est alors vraisemblable, parce que tout est vrai. Mais tout est surprenant, parce que tout est rare. Tout fait impression, parce que l'a observé tout ce qui est capable d'en faire. Mais rien ne paraît affecté, parce qu'on a choisi le naturel en choisissant le merveilleux et le parfait.
Peintres et critiques, de Poussin à Baudelaire. Vous avez entendu M. Bernard Tessèdre, professeur d'histoire de l'art à la Faculté des Lettres de Nancy, qui vous a parlé du débat du dessin et du coloris, avec la participation de Mademoiselle Céline Fites. Cette quatrième émission de la série a été enregistrée avec l'aimable concours de Radio-Canada.
Ces émissions ont été diffusées pour la première fois le 31 octobre et le 7 novembre 1967. Vous pouvez les réécouter pendant 1000 jours et les télécharger pendant un an sur le site franceculture.fr.
Dans ma cervelle se promène un si grand son appartement. Un beau chat fort doux et charmant, quand il miaule longtemps, appelle. Tant son timbre est tendre et discret, mais que sa voix s'apaise ou gronde. Elle est toujours riche et profonde, c'est là son charme et son secret. Cette voix qui perle et qui filtre dans mon fond le plus ténébreux, me remplit comme un ver nombreux et me réjouit comme un filtre. Elle endort les plus cruels maux et contient toutes les extases. Pour dire les plus longues phrases, elle n'a pas besoin de mots. Non, il n'est pas d'archer qui morde sur mon cœur, parfait instrument. Efface plus royalement chanter sa plus vibrante corde. Que ta voix, chat mystérieux, chat séraphique, chat étrange, en qui tout est comme un ange aussi subtil qu'harmonieux. De sa fourrure blonde et brune sort un parfum si doux qu'un soir j'en fus embaumé pour l'avoir caressé une fois, rien qu'une. C'est l'esprit familier du lieu, il juge, il préside, il inspire toutes choses dans son empire. Peut-être est-il fait, est-il Dieu. Quand mes yeux versent chaque j'aime tiré comme par un aimant, se retourne docilement et que je regarde en moi-même, je vois avec étonnement le feu de ses prunelles pâles, clair fanon vivantes opales qui me contemplent.